Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Samuel Bernard, Léa Sabourin. Réalisée aujourd'hui par Benjamin Hu et mise en onde par Jean Frédérics. Second temps donc de notre semaine consacrée aux juges. On s'intéresse aujourd'hui aux magistrats face au pouvoir politique lorsque la corruption vient brouiller les légitimités. Financement de partis, financement de campagne, attribution de marchés publics, les occasions de malversation ne manquent pas. Elles semblent même se multiplier dans le monde politique. On l'a vu notamment du côté de l'Amérique latine et notamment du côté du Brésil.
Le mouvement d'aujourd'hui n'a pas de parti.
Le mouvement d'aujourd'hui n'a pas de parti, pas de couleur, pas de drapeau. Il a les couleurs du Brésil. Ça, c'est la manifestation de la majorité de la population brésilienne indignée, non respectée par les actions du gouvernement et des partis au pouvoir. Ils ne sont au pouvoir que pour rester au pouvoir et ils ferment les yeux sur la corruption.
But never before Lava Jato, top executives of...
Jamais avant l'opération Lava Jato, les dirigeants des plus grandes sociétés de construction du pays avaient été arrêtés, jugés et condamnés pour corruption et blanchiment d'argent. Jamais auparavant, un directeur de Petrobras n'a été poursuivi pour un crime. Aujourd'hui, nous avons 4 condamnés qui purgent des peines de prison. Je crois que c'est un progrès vers la mise en œuvre de l'état de droit dans notre pays.
Le juge Sergio Moro, à l'origine de l'opération Lavage Jato, lavage express en portugais, une enquête tentaculaire qui a mis à jour un système de pots de vin orchestré par des entreprises du BTP pour siphonner les caisses du groupe public Petrobras avec la complicité de responsables politiques, mais aussi économiques, véritable système de financement des partis et d'enrichissement personnel. Au Brésil, depuis plus de 3 ans maintenant, l'affaire dite Petrobras révèle chaque jour un peu plus l'étendue de la gangrène et met à mal le fragile édifice démocratique. Au printemps dernier, le tribunal suprême fédéral, la plus haute juridiction du pays, annonçait l'ouverture d'une série de nouvelles enquêtes concernant 8 ministres de gouvernement, des dizaines de parlementaires. La Cour suprême a même transmis à d'autres juridictions des demandes d'investigation visant 3 anciens chefs d'État, Lula, Dilma Rousseff et Fernando Henrique Cardoso. Alors que des responsables politiques ont déjà été arrêtés et emprisonnés pour des faits de corruption, c'est désormais l'actuel président lui-même, Michel Temer, arrivé l'année dernière, on s'en souvient, à la tête de l'État à la faveur de la destitution de Dilma Rousseff, bien c'est à son tour d'être mis en cause par le procureur général qui l'accuse ni plus ni moins que d'être à la tête d'une organisation criminelle. Alors juge ou justicier, comment les magistrats se constituent en force politique? Sont-ils les défenseurs de la démocratie ou les fossoyeurs de l'ordre institutionnel? Comment la corruption impose-t-elle une redéfinition du pouvoir? Peut-on parler de politisation du judiciaire? Et quelles seront justement les conséquences de ce grand nettoyage sur le paysage politique brésilien? Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, on a invité un Brésilien, Fabiano Engelmann. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université fédérale du Rio Grande do Sul, dans la ville de Porto Alegre. Et vous êtes en ce moment invité au Centre européen de sociologie et sciences politiques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous venez d'y arriver et vous allez y rester encore quasiment 1 an. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors on va commencer peut-être avec l'actualité parce que depuis 2014 maintenant on a cette opération Lava Jato dont je parlais qui a jeté le discrédit sur l'ensemble de la classe politique, y compris, ça y est, jusque dans l'entourage direct de Temer. Il est maintenant visé par le parquet suite aux révélations d'un chef d'entreprise corrompu. Le parquet prête au président un rôle de chef d'une organisation criminelle. La formule est assez incroyable. Est-ce que Temer pourrait être contraint de quitter son poste?
Oui, bien sûr. Il y a, c'est déjà ma deuxième dénonciation qui a été faite sur Michel Temer. Et nous avons évidemment les risques qu'il peut être chuté. Mais il faut remarquer qu'il toujours a réussi à avoir d'échapper de cette dénonciation parce qu'il y a encore la capacité d'articulation à la Chambre des députés. Il faut que la Chambre des députés donne une autorisation par les ministères publics, continue cette
procédure. Et pour l'instant, il continue de le soutenir, donc pour l'instant, il n'est pas inquiété.
Oui,
mais jusqu'à
ça.
Quand
il faut ajouter aussi qu'il y a un changement. Il a changé le procureur général. Maintenant, c'est une personne qui a été indiquée par Michel Temer. Et ça peut changer le tableau. Hein.
Alors, justement, effectivement, cette personne qui a été désignée par Michel Temer, c'est donc une femme, je crois, de mémoire, qui vient d'arriver là à son poste, c'était il y a quelques heures. Est-ce que justement cette nomination de cette femme dont je recherche le nom mais que je ne retrouve pas, qui s'appelle Dodje, mais je me souviens
Raquel
plus
de son prénom,
Raquel Dodje, est-ce que l'arrivée de cette femme change concrètement quelque chose? Est-ce que vraiment elle est susceptible de protéger Temer jusqu'à la fin de son mandat, puisqu'il y aura des élections l'année prochaine?
Ça peut arriver. Bien sûr qu'il y a, aura les pressions dans le sens contraire, mais ça peut arriver parce qu'elle est plus rattachée, plus liée à Michel Temer. Elle a été la deuxième placée dans les listes que le ministère public a élu parmi ses membres. Et Michel Temer l'a donné les postes. Mais aussi, il y a toute une pression de l'opinion publique dans le sens contraire. Alors, et ça peut arriver ou pas, mais c'est, bien sûr, c'est différent de les cas de l'ancien procureur qui était bien plus fort dans la poursuivre de Michel Temer.
L'ancien procureur, c'était Rodrigo Janot. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on reproche à Temer? Parce que on le dit, donc en tout cas c'est ce que le procureur disait juste avant de quitter son poste, qu'il est à la tête d'une organisation criminelle. On dit que lui et ses proches auraient détourné quelques 158 millions d'euros, c'est le chiffre qui a été retenu. Ça paraît en fait invraisemblable.
Oui, ça dit sur les schémas de déviation d'argent des entreprises étatiques, ça sur des potes de vent qui ont été payés pour les grands entrepreneurs à lui. Et ça, c'est toujours basé dans des dénonciations qui s'appellent collaboration récompensée pour donner ce qui a été fait pour les enregistrements des témoignages, mais aussi ça, il faut remarquer parce que c'est différent dans les cas de d'autres dirigeants, parmi celui-là de Lula, par exemple, qu'il y aura des preuves matérielles. Il y aura des sacs d'argent qui ont été encontrés dans les appartements de ceux qui sont des opérateurs des schémas des portes de vente très liés à Michel Temer. Ça, c'est très, très fort, les images et même la matérialité de ces preuves. C'est différent, par exemple, dans les cas des Lula, qui sont toujours des témoignages sans aucune prouve trop matérielle.
On reviendra sur le cas de Lula, mais restons quand même un instant sur Michel Temer, parce que vous nous dites, même s'il a pour l'instant le soutien des parlementaires, il pourrait être écarté du pouvoir. C'est quand même une responsabilité absolument colossale pour les juges. Est-ce que, parce que évidemment, si cette procédure est engagée et qu'il est destitué, une nouvelle chute quand même d'un chef d'État, même si c'était pas pour des faits de corruption concernant Dilma Rousseff, ça conduirait le pays dans une crise politique et institutionnelle colossale. Alors il l'est déjà, mais est-ce qu'on pourrait imaginer finalement que les juges considèrent que la menace pour le Brésil est trop grande et que finalement on va ralentir les choses et on va laisser Temer aller au bout du mandat pour l'année prochaine, avoir un scrutin, une élection qui va balayer tout naturellement, en douceur quasiment, ce système.
Oui, ça peut arriver maintenant avec les changements des chefs de ministère public fédéral. Oui, ça, parce que ça peut être adouci dans ces cas-là. Dans le Congrès, bien sûr, ce qu'on peut dire, c'est que le coût pour Michel Temer de se maintenir au pouvoir, d'avoir la soutenance de ce qui les soutient dans le Congrès, va augmenter chaque fois risque. À chaque crise, cette coût va augmenter. Et de même cas, ça va arriver au Supreme Tribunal fédéral parce que là, il y a des divisions. Il y a quelques ministres qui voulaient bien sûr adoucir les cas et laisser ça plus pour les demandes électorales, pour les dernières élections. Mais il y a d'autres qui voulaient qui partageaient cette vision des juges, même des ministères publics les plus durs, c'est dire il faut nettoyer la politique, il faut le judiciaire doit faire ça. Alors ce n'est pas un consensus, on peut dire.
Alors regardons, intéressons-nous à la figure du juge, et quand on regarde la lutte anticorruption au Brésil depuis 3 ans, il y a une figure qui est là très présente, c'est Sergio Moro. 45 ans, il est né dans l'état du Paraná, qui est dans le sud du pays. C'est lui qui est à l'origine de ce scandale dit Petrobras. Il est vu comme un véritable héros national, en tout cas pour beaucoup de Brésiliens. C'est le petit juge de province, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui fait trembler les puissants. Quel genre d'homme est-il, Fabiano Engelmann? Et est-ce que cet homme fait seulement, dans la quête de vérité, dans la quête de justice, ou est-ce qu'il fait aussi dans la politique?
Ah oui, c'est intéressant ça, parce que ça peut un peu peut dire que c'est les deux choses, mais ils sont des calculs politiques, bien sûr. Ces dirigeants, tous ces dirigeants des opérations, et même ces messieurs Sergio Moro, parce que ils profitaient d'un côté de toutes ces vagues conservatrices au Brésil, ou toutes ces vagues des combats à la corruption, toutes ces vagues anti-politiques, anti-système représentatif, pour se profiter de celui-là, pour être promu, pour participer à des événements, pour donner des entretiens à la presse, etc. Et en même temps, ils utilisaient ça, peut-être ce qui rend possible la légitimité de l'utilisation des méthodes de poursuivre pénales très compliquées, par exemple comme les collaborations récompensées, et faire des condamnations à partir des indices, à partir des témoignages, pas sans la preuve matérielle de la corruption. Alors ça fait partie de ces choses. Oui, c'est qui va les rendre de cette façon, de faire des choses comme ça, peut être même un sens de justice, mais c'est pas seulement ça, bien sûr. Il y a une espèce de croisée contre la corruption et même une démarche politique dans ce sens. Oui.
Mais est-ce qu'il fait attention, par exemple, à s'attaquer, et on reviendra à cette question de remise de peine qui est très intéressante, mais est-ce qu'il fait attention, par exemple, à s'attaquer à l'ensemble de la classe politique, tout parti confondu? Est-ce qu'il y a une forme de recherche d'équilibre, je mets entre guillemets, mais dans la lutte anticorruption?
Je pense qu'il y a un premier moment, principalement, un usage de la lutte contre la corruption pour des forces politiques conservatrices au pays, et qui ont faire les partis de travailleurs, le gouvernement de Dilma Rousseff et même l'héritage de Lula, les cibles principales. Ça, c'est très clair. Même que ce n'ait été pas un calcul très établi, ces dirigeants de ces opérations, ils ont profité de la vague conservatrice pour faire ces combats, son combat à la corruption qu'ils ont posé. Et alors, ils n'ont pas une préoccupation avec la stabilité politique, pas du tout. Ils ont dit, bon, notre rôle, c'est faire de la justice. Un peu... Alors, ces mélanges, c'est un peu d'opportunisme politique, opportunisme conjoncturel, et aussi cette vision qui s'est très diffusée parmi les judiciaires et les ministères publics. C'est pas tous les mondes, tous les juges, tous les procureurs, mais c'est très diffusé, qui c'est cette idée des gardiens de la moralité publique, par exemple.
Et de la démocratie aussi, d'une certaine manière. Vous disiez qu'effectivement, très souvent, pour faire avancer l'enquête, les juges n'hésitent pas à promettre des remises de peine si les personnes poursuivies acceptent de donner des informations ou de révéler des implications. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé assez récemment avec Marcelo Odebrecht, ancien patron de l'entreprise, d'une entreprise de BTP, accusé d'avoir verser des pots de vin pendant des années pour s'assurer des marchés publics.
Eu sofro com vazamentos seletivos de documentos sigilosos, documentos pessoais, certo? Que não têm nenhuma relação com o objeto da denúncia.
Cette voix qu'on entend, c'est justement celle de Marcelo Odebrecht. Il est face au juge Moreau, c'était en novembre dernier, lors d'une audition, qui est d'ailleurs disponible sur Internet, c'est très facile de trouver tout ça. Mais, donc dans ce cas, Marcelo Odebrecht, accusé d'avoir versé des dizaines de pots de vin pour des centaines de millions de dollars, et encore ça c'est ce qu'on a réussi à voir, c'est peut-être encore plus... mais en échange donc de sa collaboration et de son témoignage, éclairant donc ce système de corruption qui a été mis en place, il a évité la prison. Depuis quand est-ce qu'on pratique cet art de la négociation? D'où vient cette culture de la tractation?
Oui, c'est très intéressant parce que ça commence à arriver même à partir des accords de coopération que le ministère public brésilien a fait avec des organismes américains, du département de justice, a été de coopération très forte, des formations, des procureurs, des formations même des chefs de police, de la police fédérale dans ces cas-là. Ici, a été partagé pour les juges Sérgio Moro et pour ceux qui beaucoup de personnes, des juges pendant dans les judiciaires. Ça, c'est un moment. Et après, nous avons même l'approbation d'une loi qui s'appelle la loi de la collaboration récompensée. Oui. Et ça, c'est très important, c'est pour faire marcher ces modalités, ces types de combat à la corruption menés pour ces procureurs. Parce qu'ils ils ont ces ressources d'emprisonner un grand entrepreneur, le mettre dans la prison et après les proposer une collaboration récompensée où il va dire beaucoup de choses. Il va dire ce que les procureurs voulaient écouter, principalement contre les grands politiciens, les pistes, les enregistrements. Et ces enregistrements-là qui sont faits à partir de ces témoignages, ils ont rendu à la presse. Ils ont arrivé à être très publiés par des médias, des grands médias, des morceaux qui sont très difficiles, les plus durs pour les grands politiciens qui les donnaient, leur rendu mal.
Ouais, attendez, parce qu'il y a plusieurs points. Il y a la question de la médiatisation sur laquelle je vais revenir, mais cette fameuse loi de la collaboration récompensée, c'est comme ça que vous l'appelez. Est-ce qu'elle se fait pas finalement, est-ce qu'elle n'est pas utilisée au dépens de la preuve matérielle qui devrait quand même être l'essentiel, hein, la pierre angulaire d'une condamnation.
Et ça c'est important parce qu'il n'y a pas toujours de la preuve matérielle. C'est ça la question, parce qu'ils ont dit même, les procureurs, bon, c'est impossible dans les cas de corruption de faire la preuve matérielle. C'est toujours le faire des indices, de faire des pistes, de témoignages. Et alors, c'est ça, et les noyaux très complexes de la question. Et même un usage pour les médias, pour les adversaires politiques quand même, dans le cadre des enquêtes, pour faire, d'opposition, pour donner de...
Usage abusif, très clairement, oui, Fabiano Engelmann, parce qu'il y a effectivement quelque chose d'extrêmement étonnant au Brésil, c'est la médiatisation de ces affaires judiciaires. On a l'impression que le secret de l'instruction, il n'existe carrément jamais. On montre tout, on expose tout. C'est des véritables shows télévisés que tout le monde suit quasiment, hein, comme des telenovelas. Est-ce qu'il n'y a pas là une surmédiatisation des scandales de corruption? Alors peut-être d'ailleurs que si c'est fait, c'est parce que précisément les juges, d'une certaine manière, essayent de se couvrir et utilisent l'opinion publique pour se protéger. C'est ça.
Et même, nous avons un article de Sérgio Moro, il est sur les réseaux d'Internet, qui s'appelle les considérations sur l'opération Mon Politique, sur l'opération Mon Propre de l'Italie.
Dont on parlera tout à l'heure.
Il dit ça,
il revendique cette utilisation.
Il faut mobiliser l'opinion publique. Les procureurs, que c'est Deltan Dallagnol, il même dit, j'ai donné plus de 150 entretiens, de participer à des événements partout le pays. Ils font ça comme partie de la procédure. C'est ça. Et c'est ça le problème qui dit, bon, c'est vraiment mobilisation politique. C'est ça la façon plus visible de l'activisme aussi.
Je reviens justement sur Sergio Moro et sur Lula, parce que depuis plusieurs mois, Lula est en prise avec Sergio Moro dans le cadre d'un procès autour du financement du Parti des Travailleurs, le PT. Il y avait eu un premier interrogatoire de plus de 5 heures en mai dernier. Il y en a eu un là, la semaine dernière. Sauf que depuis, les choses se sont considérablement aggravées. Et justement, à la faveur de cette fameuse loi de la collaboration récompensée, puisqu'on a un homme, en l'occurrence Antonio Palocci, qui a expliqué au juge que Lula avait passé un pacte du sang entre son parti, le PT, et l'entreprise Odebrecht, qui est au cœur de ce scandale. Est-ce que les choses vont mal pour Lula au point qu'il n'est plus possible aujourd'hui d'envisager sa candidature pour l'année prochaine, parce qu'il est candidat, enfin, oui, oui. En tout cas, il souhaiterait l'être pour l'année prochaine. Et d'ailleurs, il n'est pas du tout impossible qu'il redevienne président du Brésil, parce que, si, bon, mettons les affaires de côté, mais en tout cas, l'opinion est encore très... soutient encore beaucoup Lula, je crois, 30% aujourd'hui.
Oui, par tous les sondages de l'opinion, il est le premier placé dans l'enquête.
Il va être empêché par la justice?
Oui, ça doit arriver, ça c'est vraiment, parce que pour il ne peut être candidat, il faut une deuxième condamnation, une deuxième instance de la justice. Alors, il y a une loi qui s'appelle la Lei da Ficha Limpa, la loi de... s'il est deuxièmement condamné, il ne peut être arrivé à se présenter à la présidentielle. Et ça, bien sûr, c'est une stratégie qui va donner des grands recours pour l'opposition, pour ceux qui les autres candidats. Et ça, c'est très intéressant parce que Palocci n'a présenté aucune preuve matérielle. Il fait un témoignage et bon, ça continue comme ça. C'est différent, par exemple, que nous parlons avant sur Michel Temer, où il y a des sacs d'argent dans les appartements qui ont été pris pour la police. Alors, dans le cas de Lula, il n'y a pas ça. Et ça, des indices, ça, des déclarations. Et bon.
Il y a quand même son triplex qu'il aurait reçu. Oui, mais il n'y a pas de récompense. Pour lequel il a été condamné à 9 ans et demi. Alors, il a fait appel, mais si l'appel confirme la première condamnation,
c'est ça.
C'est fini.
Il est au dehors. Et alors, ça, bien sûr, aura des conséquences très fortes dans le scénario politique brésilien, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voient ça comme un grand coup de la droite politique. Par exemple, ça a été lié dans ce cas.
Et Sergio Moro? Il pourra avoir un destin politique?
Oui.
Souvent, il s'est défendu. Il s'est dit, non, pas de ça pour moi. Mais...
Peut-être, ça peut être Sergio Moro. Sergio Moro peut être Deltan Dallagnan aussi, qui c'est le procureur qui est plus connu de toutes ces opérations. Il peut se présenter. Nous ne savons. Il n'y a pas encore... Ça, c'est pas
mais
dans
c'est
le
possible,
tableau.
C'est un scénario qui est possible.
Mais oui, c'est possible.
Vous savez qu'il est testé par les instituts de sondage.
Oui. Ils ont,
ça se passe plutôt bien pour lui.
Ils ont placé, mais peut être même d'autres personnes qui font ces figures de ser au dehors de jeux politiques, qui peuvent se présenter comme au dehors. Et ça,
c'est des choses qu'on a déjà vues. On parlait tout à l'heure de l'Italie, on a déjà vu. Effectivement,
et ce n'est pas un résultat très bon.
Non, mais on en parlera tout à l'heure. On va quitter juste un instant le Brésil. On va se tourner du côté du Pérou, parce que là, en ce moment, le Pérou est le théâtre d'une actualité politique extrêmement vive, puisque la semaine dernière, le gouvernement a été renversé par le Parlement qui a refusé de voter la confiance. Il y a un nouveau gouvernement qui va être présenté et s'il est de nouveau rejeté, alors le président Pedro Pablo Kuczynski, élu de justesse, je le rappelle, l'an dernier face à Keiko Fujimori, aura la possibilité de dissoudre l'Assemblée et de convoquer de nouvelles élections. Mais par ailleurs, le Pérou est également concerné par l'affaire dont on parle, l'affaire Petrobras, puisque l'ancien président Ollanta Humala et sa femme sont accusés d'avoir reçu de l'argent justement de cette fameuse entreprise de BTP, Odebrecht. Et aujourd'hui, le couple présidentiel est derrière les barreaux.
Une ordonnance de détention provisoire envers les accusés Ollanta Moïses Humala Tasso et Nadine Heredia Alarson s'impose pour une durée de 18 mois, le temps de l'enquête. Ils sont poursuivis pour blanchiment d'argent au détriment de l'État.
Nos avocats ont remis nos passeports. Depuis le départ, nous avons fait preuve de bonne volonté, mais pour le procureur, rien ne va. Je pense que cet homme est empoisonné.
Voilà, Humala, derrière les barreaux, ainsi que son épouse, accusée d'avoir reçu donc 3 millions de dollars dans le cadre de leur campagne de 2011. Alors, on va recevoir une nouvelle invitée par téléphone depuis Lima, c'est Adriana Urrutia, qui est chercheuse en sciences politiques à l'Institut d'études péruviennes. Adriana Urrutia, contrairement à la candidate malheureuse à la présidentielle Keiko Fujimori, donc fille de l'ancien président, désormais en prison, lui, pour crimes contre l'humanité et pour corruption, elle aussi était soupçonnée et soupçonnée de relations avec l'entreprise Odebrecht, ce que confirme d'ailleurs la justice brésilienne, mais elle n'est absolument pas inquiétée, contrairement à Humala. Comment comprendre cette différence de traitement? Est-ce qu'au Pérou, bien, tous les politiques ne font pas l'objet de la même attention de la part des juges?
Non, absolument pas. Je pense que la justice est très politisée en ce moment au Pérou. Et la preuve, c'est que les trois derniers gouvernements sont soupçonnés... D'ailleurs, il y a une évidence de la part des témoins brésiliens de, disons, les anciens présidents qui participent dans ces réseaux de corruption. Et les trois derniers présidents, donc Alejandro Toledo qui a gouverné de 2001 à 2006, Alan Garcia qui a gouverné de 2006 à 2011, et Ollanta Humala qui a gouverné de 2011 à 2016, seulement Toledo et Ollanta Humala sont accusés. Et Toledo est en ce moment, c'est un profil de la justice, il est aux États-Unis, en ce moment la justice péruvienne essaie de l'extrader. Et seulement Ollanta Humala, qui est sur le territoire national, a été mise en prison, ce qu'on appelle au Pérou la prison préventive.
Oui, c'est exactement comme en France, il a été mis en détention préventive. Or, il y a quand même une chose qui est assez intéressante, c'est que ça fait des mois et des mois, pour ne pas dire davantage, qu'on a des informations concernant Humala relativement à cette affaire. Et pourtant, il n'est toujours pas en capacité de se défendre dans le cadre d'un procès. Est-ce qu'on n'est pas là quand même dans une forme d'abus de pouvoir des juges qui ont ordonné sa détention?
Oui, moi je dirais en fait que c'est l'évidence qu'on a des réseaux partisans au sein du pouvoir judiciaire. Ce qui explique le fait que Alan Garcia ne soit pas accusé, même si la justice péruvienne a demandé certaines preuves. Pourquoi je dis ça? Parce que il est bien connu au Pérou que le parti d'Alan Garcia, l'APRA, l'APRA, a, disons, beaucoup de réseaux partisans, des militants même du parti, qui travaillent dans le pouvoir judiciaire et qui, grâce à ce réseau, l'ancien président peut se protéger et peut être tranquille, disons, en termes de justice. Contrairement à Ollanta Humala, dont les réseaux militants ont été déstructurés, et ce qui explique le fait qu'il a perdu, disons, toute capacité politique de se défendre dans un contexte où la justice ne suit pas, disons, des procès réglementaires, mais plutôt est dans un jeu politique de négociation.
Oui, donc très clairement, là, vous remettez en doute, vous remettez en cause l'autonomie du judiciaire au Pérou. Je voudrais qu'on revienne un tout petit instant peut-être sur l'actualité. Donc je disais qu'il y a quelques jours maintenant, le gouvernement a été renversé par le Parlement, qui a refusé de voter la confiance. Voilà. Il y a un nouveau gouvernement qui devrait être présenté. Et s'il est à nouveau rejeté, d'ailleurs, le président actuel aura la possibilité de dissoudre l'Assemblée et de convoquer éventuellement de nouvelles élections. Quel lien vous établissez-vous entre cette crise politique institutionnelle et précisément ces affaires de corruption, cette lutte anticorruption qui se déroule en ce moment au Pérou? Est-ce que vous établissez un lien entre les deux événements? Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière, on a peut-être une forme d'instrumentalisation de la lutte anticorruption à des fins politiques?
Oui, tout à fait. Et dans ce jeu politique dont on parlait il y a quelques instants, c'est le parti de l'ancien président Alan Garcia et le parti de Keiko Fujimori, fille de l'ancien président Alberto Fujimori, aujourd'hui en prison, entre autres raisons pour des questions de corruption, qui sont en train de faire, pression sur le gouvernement actuel pour mener le jeu politique à leur façon. Donc, ce qu'espère le gouvernement actuel, c'est le fait d'obtenir une espèce de paix politique en nommant des personnes très proches des partis que j'ai mentionnés juste avant.
Adriana Urrutia, la question de l'opinion. Comment est-ce que l'opinion péruvienne réagit à ce scandale et réagi aussi à la manière dont on organise la lutte contre la corruption. Comment est-ce qu'ils ont pris le fait de constater que leurs dirigeants étaient mouillés dans un système de corruption de très grande ampleur, comme on peut le voir par exemple au Brésil? Comment est-ce qu'on a réagi?
Alors, il faut comprendre que le Pérou, comme dans plusieurs pays d'Amérique latine, est un pays avec de fortes inégalités et dont la politique, en fait, se base dans des accords un peu populistes et clientélaires qui profitent de ces inégalités. Donc, les gouvernements qui sont accusés de corruption sont des gouvernements qui ont une très forte popularité parmi les classes populaires, qui sont des classes majoritaires au moment de voter. Ici au Pérou, on a souvent la tendance à expliquer le résultat de certaines élections à travers le slogan « ils veulent, mais ils construisent ». Dans cette espèce de compréhension de la politique de transaction entre certains biens matériels contre le soutien à travers la votation.
Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Quel scénario? Est-ce qu'on va avoir une forme de renouvellement du champ politique à la faveur justement de la lutte anticorruption? Ou est-ce qu'on finira par maintenir une forme de statu quo à la faveur cette fois peut-être d'un accord politique justement par lequel on va exempter un petit peu tout le monde et on mettra peut-être de nouvelles règles en place sur le financement des partis politiques pour éviter que tout ça se reproduise? Comment vous voyez les choses?
Moi je m'oriente plutôt vers votre deuxième option, c'est-à-dire en ce moment où on est contrôlé par le fujimorisme, je vois très difficilement qu'on puisse aller dans une politique de gouvernement de lutte contre la corruption, parce que le gouvernement va s'opposer à toute action que le pouvoir exécutif puisse faire dans ce sens, puisque notamment Keiko Fujimori est une des principales accusées en ce moment, et la justice péruvienne n'a rien fait pour la mettre sous prison préventive, comme l'ancien président Ollanta Humala. Je pense que c'est un pouvoir d'État qui est très dépendant des partis politiques, et qui justement est une justice très personnaliste qui choisit très bien à qui elle va favoriser.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Merci à vous, donc Adriana Orutia, depuis Lima, chercheuse en sciences politiques à l'Institut d'études péruviennes. Fabiano Engelmann, retour avec vous ici en plateau et peut-être avec un jeu de miroir peut-être sur le Brésil. Il y a plusieurs choses qui sont assez étonnantes dans le cas péruvien. D'abord, le fait que les juges ne se gênent absolument pas pour mettre en détention préventive en l'occurrence, un ancien président. Que l'opinion aussi, d'une certaine manière, péruvienne comprend le système politique ait besoin d'une certaine manière de ce système de corruption pour se financer, mais aussi pour développer le pays et que ça profite aussi d'une certaine manière à l'ensemble du pays. Que vous inspire toutes ces réactions au Pérou?
C'est assez complexe, bien sûr, parce que ceux qui sont toujours les opposants à Lula et même des gouvernants, les derniers gouvernants, vont dire, bon, c'est ça, toujours il y a des vols, toujours il y a des corruptions, il faut nettoyer tous, et ça indépend de quelle force politique a là-bas. Et ça, c'est un discours très sensible qui va être lié aussi à une espèce de classe moyenne qui va avoir une vision parfois moralisante de la politique, mais pas tout à fait ses pratiques dans les domaines économiques, par exemple. Et d'autres choses qu'il est important de remarquer, c'est que toujours, ça, c'est pour la politique, c'est pas toujours pour l'économie. Ouais, qui bon, dans l'économie, il y a beaucoup de problèmes, il faut emprisonner, il faut condamner aussi ceux qui font la corruption, le système. Et troisième chose qu'il faut remarquer aussi, c'est que le système politique, bien sûr, il a des problèmes en soi-même dans le cas, par exemple, de la composition des gouvernements pour faire une coalition politique dans les congrès, par exemple. Ça, c'est un coût qui a augmenté dans les dernières années parce qu'il y a beaucoup de partis politiques, il y a beaucoup de logiques locaux, et ça a rendu très, très cher. Même les campagnes électorales ont été c'était augmenter les coûts pour faire... Alors, les politiciens, pour se faire élus au Brésil, il doit mobiliser beaucoup d'argent. Ça, c'est une modalité qui a monté, qui a beaucoup monté dans les dernières années. Et ça, bien sûr, a participé beaucoup dans ces problématiques de la corruption. Et l'opinion publique, toujours ceux qui ont été s'opposer, et on dit, bon, le PT, le Parti du Travail, il a fait de la corruption. Et d'autre côté, il y a ceux qui ont dit, non, c'est le cas de Michel Temer sous le monde, maintenant qui nous venons arriver les, vraiment la gang.
Oui, mais il y a aussi une polarisation entre ceux qui considèrent que finalement, eh bien, tant pis pour la corruption, puisque d'une certaine manière, cela a profité aussi au pays qui s'est développé, qui a permis à des millions de personnes au Brésil de sortir de la pauvreté, qui faire émerger une classe moyenne, et puis les autres qui considèrent que c'est moralement absolument inacceptable et qu'il faudrait remettre le Brésil sur les rails d'un régime fort, autoritaire et même militaire. C'est des choses qu'on a déjà entendues dans les manifestations au Brésil. Il y a cette polarisation très forte.
Mais celui-là qui font cette remarque de la moralisation, ils sont toujours des opposants à les projets politiques qui sont représentés par les gouvernants successifs de PT. Et ceux qui font ces justificatifs sont personnes qui peut-être ont une compréhension plus large de la politique, en disant, bon, il faut faire ces jeux, il faut changer les choses, il faut faire des réformes petit à petit. Et ce n'est pas les judiciaires qui doivent faire ça. Les judiciaires n'arrivent pas à être l'acteur clé de ces processus. C'est ça le problème. Oui.
On remonte un tout petit peu le temps, quasiment 30 ans en arrière.
Senhoras e senhores constituintes, minhas senhoras e meus senhores, 2 de fevereiro de 1987, ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, 5 de outubro de 1988...
Alors, cette voix, peut-être que les auditeurs français, évidemment, ne la reconnaissent pas et ça ne leur dit rien, mais à vous, en revanche, Fabiano Engelmann, ça résonne de façon extrêmement forte. C'est celle de Ulysses Guimarães, on prononce comme ça, c'était au moment de la promulgation de la nouvelle constitution de 1988. On est là le 5 octobre 88. Ulysses Guimarães, c'était l'un des principaux opposants à la dictature. C'est important parce que après des années de dictature militaire, le Brésil revient sur le chemin de la démocratie et l'un des outils, justement, qui marque ce tournant, c'est la constitution de 1988. Je voudrais que vous nous disiez en quoi cette nouvelle constitution va transformer la place du judiciaire, puisque c'est notre question aujourd'hui, dans l'espace politique.
Oui, c'est très important parce que la Constitution a donné beaucoup de prérogatives aux judiciaires, aux juges, l'indépendance, le pouvoir judiciaire, et fait arriver aussi les ministères publics, l'indépendance des ministères publics. Alors nous avons un changement institutionnel de façon très forte qui donnait beaucoup de pouvoir et à ces catégories professionnelles. Au même temps, ça, dans les années 90, va faire que les judiciaires et même le ministère public ont revendiqué et ont à avoir la croissance dans l'espace politique comme les gardiens de la Constitution. Et la Constitution, c'est la promesse, sont les droits sociaux, les droits fondamentaux, et ça commence à avoir une visibilité très forte. Mais comme ça va arriver? Ça arrive d'un côté, on peut dire, pour une espèce d'activisme fort qui va arriver dans le cas du ministère public, principalement en fait-on des actions judiciaires, en fait-on en essayant de représenter les peuples, entre guillemets, dans l'espace judiciaire. Mais ça va arriver aussi par la mobilisation du judiciaire par les forces politiques. On peut dire la opposition politique, les minories politiques dans les assemblées locaux, dans les États, et même les ministères publics ou les mouvements sociaux vont vont arriver au judiciaire, vont mobiliser le judiciaire pour faire valoir des politiques publiques ou demander des droits. Et ça, tout cela, tous ces phénomènes mélangés va rendre plus visible le judiciaire dans l'espace politique.
Gardien de la démocratie, mais acteur politique aussi.
Oui,
de fait.
Oui, c'est ouais. ça. Et ça, c'est fait aussi accompagné d'une croissance corporative du ministère public. Il faut remarquer aussi que qu'est-ce qui va arriver après, ça c'est plus pour les années 2000. Les chefs de police, les défenseurs publics, beaucoup d'autres catégories de professions judiciaires vont revendiquer les mêmes statuts, les mêmes indépendances. Bah, bien clairement, n'arriveront pas à ce qui a été pour les judiciaires.
Oui, l'indépendance,
ils vont acquis de l'autonomie parmi les pouvoirs politiques exécutifs, par exemple.
Et donc, il va y avoir de nouveaux rapports entre le pouvoir judiciaire et la police, par exemple, parce qu'avant ça, la police était quasiment sous la main du gouvernement, et quand il y avait rarement
les années
des
90,
enquêtes anticorruption, elles n'aboutissaient jamais parce que la police était dans les mains du gouvernement.
Ce qui est arrivé avant, c'est ça. Il a toujours des enquêtes contre la corruption, les combats contre la corruption, mais il arrive jusqu'à un point et après il s'arrête. Et ça va changer avec ce processus d'autonomisation.
Grâce à cette nouvelle constitution de 88. On va prendre la direction de l'Italie, Fabiano Engelmann, parce que dans les années 90, l'Italie a vécu toute une série d'enquêtes judiciaires visant des personnalités du monde politique, des ministres, des députés, des sénateurs et même des anciens présidents du Conseil. Tout commence en février 92. Des policiers procèdent à l'arrestation d'un homme, Mario Chiesa.
Chiesa. Mi lasci stare, come si permette? Cosa ha buttato?
Stava buttando qualcosa nello scarico.
Non è vero. Ingegnere, un'altra valzetta.
Extrait d'une série télévisée italienne intitulée 1992 qui a été créée par Alessandro Fabri qui a été diffusée en 2015. Mario Chiesa qui est pris en flagrant délit en pochant une enveloppe de 7 millions de lire qu'il avait tenté, on l'entendait d'ailleurs là dans la série à l'instant, qu'il avait essayé de faire disparaître dans les toilettes. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en réalité, c'est le patron d'une petite entreprise de nettoyage qui sollicite les forces de l'ordre parce qu'il en avait assez finalement de devoir payer des pots de vin. Donc à l'origine de ces opérations, pas des politiques, pas des juges, mais un simple entrepreneur d'une certaine manière. Et c'est la même chose d'ailleurs du côté du Brésil. Bonjour Jean-Louis Briquet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et professeur à l'Université Paris 1. Il y a eu beaucoup de critiques, Jean-Louis Briquet, concernant le caractère politique de la lutte anticorruption en Italie. Certains magistrats étaient plutôt marqués, c'est vrai, à gauche. Certains étaient même connus pour leur proximité avec le Parti communiste italien. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une forme de politisation de la lutte anticorruption ?
C'est assez ambivalent parce que si on s'en tient à ce qui s'est passé, c'est pas tellement les magistrats qui ont fait de la politique, c'est les hommes politiques qui ont adopté des pratiques illégales, illicites, et qui donc par là même ont créé, disons, le fait que les juges se sont introduits dans la politique. Donc d'une certaine manière, c'est pas les juges qui ont eu une intention politique avec la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, ça fait partie du devoir, je dirais, légitime, normal de la magistrature.
Mais est-ce que vous diriez que cette lutte a été politisée ?
Alors, après, effectivement, le problème qui a pu se poser, c'est la manière dont les effets de cette lutte, les conséquences de cette lutte judiciaire ont été, comment cette lutte judiciaire, pardon, s'est traduite de manière politique dans le champ politique. Alors, en Italie, ça a été un véritable tremblement de terre, c'est-à-dire que les grands partis, la démocratie chrétienne, etc., enfin, disons, la classe politique traditionnelle, dans sa grande majorité, a été laminée ou très très affaiblie par le travail des magistrats. Mais beaucoup de ces magistrats s'en sont défendus quand on les accusait, parce qu'ils ont été bien évidemment accusés dès le départ, et puis ensuite par Berlusconi, un peu plus tard, ils ont été accusés bien évidemment de politiser, Berlusconi parlait même de coup d'état judiciaire, etc. ils en sont toujours défendus, de manière, à mon avis, assez audible, enfin, et juste, en disant que eux-mêmes n'avaient fait que leur travail de magistrat en luttant contre les pratiques de corruption.
Mmh. Sur les conséquences, effectivement, politiques de l'opération Manipulite, l'opération main propre, effectivement, il y a eu l'effondrement des grands partis, des partis dits de gouvernement, et puis l'émergence du berlusconisme, qu'on pourrait qualifier en disant que voilà, c'est un parti politique dont, avec un pouvoir hyper concentré, dans les mains d'un homme d'affaires extrêmement riche, à la tête évidemment d'un empire médiatique qui a su très habilement contrôler la fabrique législative pour garantir son impunité et se maintenir au pouvoir. Mais le berlusconisme a fait perdurer précisément ce clientélisme tant combattu par les juges de cette opération main propre. Alors comment comprendre que, précisément alors qu'on pensait que le système était nettoyé, arrive sur la scène politique un parti qui porte en lui les travers qu'on reprochait aux prédécesseurs?
Et ça, c'est la grande contradiction de cette période assez courte, hein, en Italie, disons des années 92-94, où pendant ces années de 92-94, l'opération judiciaire de lutte contre la corruption est vraiment pensée comme une opération d'émancipation politique très forte, de modernisation du système politique. Il y a des groupes politiques, même une partie de la population qui soutient cette de manière, qui voit ça de manière très très positive. Hein. Et beaucoup de gens, le discours de l'époque, c'est « enfin, l'Italie va devenir une démocratie moderne, une démocratie sans corruption, une démocratie sans clientélisme, etc. » Et effectivement, d'une certaine manière, la fin de... Enfin, je ne dis pas que Berlusconi n'est pas le produit de la lutte anti-corruption, mais en tout cas, c'en est un point d'aboutissement. Et Berlusconi, au-delà même de ce qu'on pense de lui, c'est quelqu'un qui va être profondément impliqué dans toute une série d'affaires de corruption, et dont on peut dire maintenant qu'une partie des activités en tant qu'homme d'affaires ont été des activités illicites et donc relevant de ce qu'on peut appeler généralement la corruption. Donc c'est vrai que c'est une grande contradiction, mais c'était lié au fait que, pour le dire très très rapidement, cette lutte contre la corruption, elle se traduit politiquement par un discours sur le besoin de renouveau, le besoin de nouveauté, la fin de l'ancien système, il faut abattre l'ancien régime, il faut créer une nouveauté. Alors, il y a plein de gens qui peuvent incarner cette nouveauté. Il y a la gauche italienne, l'ancien parti communiste, il y a des gens de la société civile, etc. Mais il y a aussi Berlusconi, qui, à un moment donné...
Mais alors, posons la question comme ça. Pourquoi est-ce que c'est Berlusconi qui l'emporte sur ce combat d'idées, qui n'est pas un combat à proprement parler idéologique, mais parce qu'à l'époque, vous avez raison, la gauche est en recomposition, c'est vrai, mais elle n'est pas aussi faible que ça. D'ailleurs, on pense qu'elle va gagner les élections de 94. Finalement, c'est la droite qui va l'emporter, et les progressistes vont rassembler un peu moins de 34% des voix, alors que le pôle autour de Berlusconi en remporte 43%. Finalement, pourquoi la gauche n'a pas su tirer les bénéfices de cette crise?
Elle a pas su tirer les bénéfices de la crise parce que tout d'un coup Berlusconi arrive. Je crois que c'est déjà un gros problème. Ouais. Alors Berlusconi, les raisons pour lesquelles il gagne, elles sont multiples, hein, mais on peut en citer quelques-unes. Je pense d'abord, c'est qu'il réussit quand même à fédérer autour de lui une partie de la droite italienne, qui a plus de leader, qui se sent un petit peu orpheline des anciens partis, et qui va voir dans Berlusconi, enfin de l'électorat, aussi bien de l'électorat que les partis de droite, qui vont voir en Berlusconi un leader possible, même s'ils ne trouvent pas que c'est le leader idéal, c'est le seul dont ils ont à disposition. Donc il y a quand même tout l'électorat de droite qui va soutenir Berlusconi. Il y a aussi le fait qu'il a une grosse entreprise politique qui est en partie liée à son entreprise industrielle, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui mobilise ses équipes de proches dans la campagne électorale. Alors lui incarne le renouveau, mais aussi il sait s'attacher des gens au niveau local, au niveau des régions, etc., qui sont des chefs d'entreprise et qui incarnent aussi ce renouveau. Donc ça explique peut-être sa victoire.
Vous restez avec nous, Jean Le Briquet, mais je me tourne vers Fabiano Engelmann, et peut-être qu'on pourrait poser la question de savoir ce que seront les conséquences politiques de la lutte anticorruption au Brésil. Est-ce que, à l'instar de ce qui s'est passé en Italie, eh bien, le Brésil va tout droit vers une forme de berlusconisme brésilien? Alors, est-ce qu'on voit émerger quelque part dans le paysage politique quelque chose qui pourrait ressembler à ça?
Oui, c'est peu arrivé, parce que nous avons déjà, par exemple, dans les élections passées, de l'année passée pour les mairies, à l'émergence d'une espèce de politicien qui se place au dehors du système politique en disant, bon, je ne suis un politicien traditionnel et je suis au dehors. Et ça, ça peut arriver dans la prochaine élection présidentielle, plutôt pour les côtés conservateurs, bien sûr, qui même aussi plus autoritaire, on peut dire, parce qu'il y a aujourd'hui les conditions objectives qui peut rendre ça possible, ce genre de discours, qui c'est aussi, comme on peut dire, rattaché, lié à la tradition autoritaire qui est toujours présente dans la politique brésilienne depuis longtemps.
Vous pensez à des figures en particulier, là?
Oui, nous avons une personne qui s'appelle Jair Bolsonaro, qui s'était très lié à des militaires, qui fait ses discours anti-droits de l'homme, par exemple, fait des discours trop qu'il faut durcir, qu'il faut faire un gouvernement très autoritaire avec l'autorité, etc. Il y a même la possibilité de ces genres des agents qui ont participé dans l'opération Lava Jato, qui vont apparaître comme un ex-grand juriste qui a rendu service à la cause de le combat de la corruption et qui n'est pas de compromis avec des partis politiques et ça va dire avec les systèmes représentatifs. Ça peut arriver, bien sûr.
Fait, à l'instar d'un Antonio Di Pietro qui lui aussi a essayé de se lancer dans la politique, Jean-Luc Briquet. Peut-être pas avec le succès qu'on aurait pu penser. Alors, sauf à considérer que être député européen, être sénateur, faire partie d'un gouvernement, ce n'est pas un succès. Jean-Louis Briquet.
Alors, il a fait de la politique, mais après avoir quitté la magistrature.
Absolument, hein,
c'est quand même quelqu'un qui n'a pas été à la fois magistrat et politique.
Il a quitté, puis il a fondé son parti politique.
Pardon.
Il a fondé son parti politique, Italie des valeurs, etc. Ouais.
C'est vrai, non, il a fait de la politique, mais après avoir quitté la magistrature, non, mais c'est certain que dans la lutte anticorruption en Italie comme ailleurs, il y a un projet politique derrière, même si les juges s'en défendent souvent, il y a un projet politique de rénovation politique, de modernisation de la démocratie, etc. Et ça me semble pas totalement illégitime, d'une certaine manière, que certains porteurs de ce projet politique qui l'ont porté en tant que magistrat, puisse ensuite le porter en tant qu'homme politique. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, il y a pas mal de magistrats sur la scène politique italienne, mais disons, on ne peut pas dire qu'il y a eu un groupe identifié à la magistrature qui s'est exprimé sur la scène politique comme tel. Il y a eu des trajectoires individuelles, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu... Il y a eu des groupes politiques qui ont soutenu très fortement l'action de la magistrature.
Et au Brésil, Fabiano Engelmann, est-ce qu'on voit déjà peut-être s'organiser quelque chose qui ressemble à un mouvement et qui pourrait donner une formation politique qui serait susceptible de se présenter aux élections générales de l'année prochaine? On voit ces choses s'organiser ou pas?
Oui, il y a une prolifération de petits mouvements de la droite. Ce sont des mouvements qui circulent parmi des entrepreneurs, parmi les dirigeants d'entreprises. Ils sont les mouvements qui réindiquaient cette catégorie d'inettes pas rattachée à les partis traditionnels.
Pas encore, mais ça
pourrait
venir. Mais
ça, des mouvements très forts encore. On peut dire, très organisés, pas encore.
Los yanquis tienen cañones y los tienen por millares.
Merci beaucoup à Jean-Louis Briquet qui était avec nous à l'instant par téléphone et à vous, Fabiano Engelmann, de nous avoir accompagnés ce matin.
Merci.
De nous avoir éclairé sur cette actualité brésilienne. Nul doute qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau là, dans les mois qui viennent. Évidemment, le Brésil sera encore dans notre ligne de mire et sous les radars médiatiques. Un grand merci, Fabiano Engelmann. Il est presque 11h53 sur France Culture, l'heure de retrouver Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, Donald Trump, vous nous en parlez depuis hier et puis d'un livre en particulier. Donald Trump, il doit sa victoire tellement inattendue au basculement dans son camp de l'électorat des petits blancs. Vous nous avez présenté ce livre « Hillbilly Elegy », témoignage de première main sur cette classe ouvrière en colère. Et pourtant, Trump lui-même est un milliardaire et sa politique n'est pas favorable à la classe ouvrière. Qu'est-ce qui explique ce vote alors?
Bah oui Florian, depuis l'élection de Trump, on a vu fleurir les études tentant d'expliquer ce paradoxe. Les pauvres ont voté pour un héritier spéculateur. L'Amérique profonde, réputée conservatrice, a choisi un New-Yorkais divorcé. Le Congrès, à majorité républicaine, à peine élu, s'est acharné à sabrer dans les programmes sociaux. Alors on cherche à comprendre. Pourquoi tant de gens ont-ils voté pour Trump? Que pensent-ils aujourd'hui de leur choix de novembre dernier. Et on se demande aussi quelles sont les erreurs qu'ont pu commettre les démocrates pour avoir laissé échapper une victoire qui leur semblait promise 6 mois avant les élections. Comment la gauche peut-elle renouer avec les cols bleus, avec la classe ouvrière ? La sociologue Harley Hochschild a fait couler beaucoup d'encre avec un livre d'enquête intitulé « Strangers in their own land », étrangers dans leur propre pays. Pour elle, ce qui motive le choix des électeurs dans l'Amérique d'aujourd'hui, c'est moins les intérêts économiques que ce qu'elle appelle les histoires profondes que se racontent les gens. Ce qui est devenu déterminant, c'est la manière dont ils sont renvoyés à leur identité et celle dont ils perçoivent leur propre position au sein de la société. En Louisiane, elle a écouté des gens qui croyaient au rêve américain, à savoir si vous jouez selon les règles et que vous travaillez dur, vous avez toutes les chances d'améliorer votre sort. Eh bien, ces gens ont constaté que pour eux, ça ne fonctionnait plus. Alors, ils accusent des coupeurs de fil de passer devant tout le monde. Et ils estiment que le système politique est complice de ceux qui sont passés devant eux sans respecter les règles. Ils s'estiment victimes d'une injustice. Leur vote est fondé sur un sentiment de frustration, il exprime donc une colère. Alors qu'il pensait constituer l'ossature de la nation, à l'égard de laquelle il cultive une loyauté et un patriotisme qui ont cessé d'être partagés, il se sent laissé pour compte et méprisé par l'élite sociale. Qui plus est, écrit l'historien Daniel Rogers dans la revue Démocratie, ils se sont sentis mis sur la touche par un président noir et éduqués par des femmes qui réussissent mieux qu'eux. Ils se voient concurrencés par des immigrés qui leur fauchent les boulots et tirent les salaires vers le bas, méprisés par des intellectuels cosmopolites et des capitalistes hors sol qui n'hésitent pas à délocaliser dans les pays à bas coût de main-d'œuvre ou à les remplacer par des robots. C'est pourquoi ils sont pleins de ressentiment. Ils avaient en outre l'impression de n'avoir pas voix au chapitre, de ne pas être entendus par les médias légitimes. Et ce qui leur a plu chez Trump, c'est qu'il a une grande gueule, qu'il ose dire devant tout le monde ce qu'ils avaient sur le cœur. Une analyse à rapprocher de fait qui a été faite récemment par le philosophe à succès Michael Sandel. Pour lui, la vague populiste de 2016, dont personne ne peut dire si elle est stoppée provisoirement ou définitivement en Occident, a constitué une rébellion contre les partis installés, contre ceux de l'establishment. Elle a été provoquée par ce qu'il appelle l'hubris méritocratique. Les partis de centre-gauche, comme le Parti démocrate américain, sont devenus en effet des partis de diplômés. Et ils développent une idéologie méritocratique, axée sur l'amélioration de l'égalité des chances. Ils prétendent compenser les inégalités de position de départ dues aux discriminations. Mais ce faisant, ils encouragent les gagnants de la course à considérer comme leur succès comme la consécration de leurs propres vertus, de leurs propres efforts. Quant aux perdants, soit ils sont démoralisés parce qu'on les a convaincus qu'ils ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes d'avoir échoué, soit ils sont en colère parce qu'ils estiment que le jeu était truqué.
Et alors, quid des démocrates ? Quelles erreurs ont-ils commis ?
D'après Daniel Rogers, toujours lui, c'est que le vieux parti de la gauche américaine s'est trop compromis avec les super riches. Obama a renfloué les banques, pourtant responsables de la crise de 2008, afin de sauver le système financier. Ensuite ont été dévoilés les liens ayant lié Hillary Clinton à Goldman Sachs. Elle leur a donné 3 conférences surpayées. Et les gens ont cru tenir la confirmation des liens malsains existants entre l'élite politique et la finance. Mais surtout, les non-diplômés du supérieur se sont dit, je cite Rogers, que l'économie high-tech, les énergies renouvelables dont les libéraux faisaient la promotion ne faisaient aucune place aux gens comme eux. Sandel aussi constate que le travail n'est plus considéré. À une époque où on peut gagner une fortune dans la finance, le travail productif est dévalorisé. En outre, les cols bleus ont été exaspérés par la présomption de la gauche qui s'imaginait, je cite, que le remaniement démographique de la population lui assurait la victoire. Illusion auto-infligée, écrit Rogers. Les blancs ruraux et ceux des petites villes forment une part certes déclinante de la population totale des États-Unis, mais il en reste suffisamment pour faire basculer le résultat d'une élection. Le fait d'avoir été considéré comme quantité négligeable par les démocrates n'a fait qu'augmenter leur exaspération. Le résultat, c'est, je cite, un vote dans lequel la colère l'emporte sur l'optimisme, un sens destructeur de l'échec prime sur l'espoir et dans lequel le caractère absolument aberrant de Trump est devenu son principal atout.
Merci beaucoup Brice Couturier. Donc beaucoup de réflexions qui découlent de ce livre « Hillbilly Elegy », on rappelle, aux éditions Globe qui vient de paraître. Merci Brice, on vous retrouve demain dans un très court instant sur France Culture. On retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.